Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous donne et sa présence pour pouvoir effectuer cette étude biblique. Comme c'est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est vraiment une vraie nourriture, la parole de Dieu. Et nous sommes sur le livre de Job. Le problème de Job, c'est la souffrance qu'il endure. Une souffrance insupportable. Et ses amis qui sont venus normalement pour le consoler finissent par le charger encore. Voilà, donc il se sent vraiment seul et dans une grande souffrance, sans réponse de Dieu. Et il se lamente. Donc il se lamente. Il crie, il manifeste, il exprime des cris de douleur par des paroles qui parfois l'entraînent à accuser même Dieu de lui mettre une certaine pression sans raison. Voilà. Mais n'empêche que il a aussi des paroles très justes sur la grandeur de Dieu. Il manifeste toujours la foi en Dieu. Et on avait dit que c'était très important de garder la foi en Dieu, quels que soient les problèmes. Nous sommes imparfaits, il peut nous arriver de faire des erreurs, mais quand on garde la foi en Dieu, ça nous ramène toujours à lui. Voilà. Et nous sommes arrivés au chapitre 20, et dans le chapitre 19, on a lu un verset qu'on avait demandé à ce que chacun retienne, Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Et on n'avait pas parlé du verset 26, mais qui est tout aussi extraordinaire. Il est écrit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc, Job manifeste que la fidélité de Dieu finira par se manifester. Donc même si on en arrive à ne plus avoir de peau, donc quand ma peau sera détruite, même si on arrive à ne plus avoir de chair, Dieu ne nous laissera pas tomber. Il y aura un moment où il se lèvera. Voilà. C'est vraiment un mot d'espoir pour nous tous. Pour nous tous, nous avons des parcours parfois longs dans la recherche de certaines choses. Il y en a qui attendent de commencer peut-être un appel qu'ils ont reçu en vision autrefois par Dieu. Il y en a qui attendent de voir l'église de Dieu en réveil. Il y en a qui, ça fait peut-être 30 à 35 ans qu'ils servent le Seigneur dans l'attente de voir sa gloire. Alors ça fait un peu long. Et Job nous dit, notre Dieu se lèvera. Même quand il n'y aura plus de chair, il confirmera, manifestera ce qu'il a promis, que ce soit à nous-mêmes directement, mais que ce soit ce qu'il a promis dans sa parole pour tous les chrétiens, mais et en quoi nous avons mis notre foi. Donc s'il y a des paroles, des versets bibliques que tu as lus autrefois, et tu as mis foi que en Dieu, que ces versets-là doivent s'accomplir dans ta vie, eh bien, Job nous dit que même quand tu n'auras que la peau peut-être sur les os, eh bien, tu verras Dieu accomplir ces choses-là. Donc, c'est un encouragement formidable pour nous tous. Job 19, 25 à 26, se souvenir de ça, peut-être quand tu seras emprisonné, se souvenir de ça, peut-être quand tu seras accusé par le monde entier, se souvenir que ton Rédempteur se lèvera le dernier. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Donc, nous allons attaquer le chapitre 20, second discours de Tsophar.
Job chapitre 20. Tsophar de Nama prit la parole et dit, « Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, Le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront : Où est-il ? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. S'il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles et qu'il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité. Et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine.
Voilà. Donc nous revenons encore sur le sort des méchants. Donc c'est un thème qui revient souvent et qui est adressé à Job de la part de ses amis. Avec l'arrière-pensée suivante, Job, ce qui est en train de t'arriver ressemble à ce qui devrait arriver à un méchant. Voilà. Est-ce que tu ne serais pas toi-même méchant? C'est ça l'arrière-pensée qui tue Job de voir, d'entendre ses amis tenir de pareils propos. C'est ça qui le tue davantage. Il dit, mais vous êtes vraiment méchant avec moi. Et nous avons intitulé cette partie « Le sort attendu des méchants ». C'est-à-dire que dans notre conception à nous tous, c'est que le méchant finit mal. On a aussi vu, mais voilà, il y a un mot qui dit, qui a ici, qui dit au verset 5, « Le triomphe des méchants a été court. Le triomphe des méchants, oui, a été court. Voilà. Donc, l'idée qu'il y a, c'est que le méchant ne dure pas. Donc, c'est toujours court. Je pense que peut-être que la personne qui parle, peut-être est assez jeune en âge par rapport à Job. Parce qu'il sort plus une pensée logique. Logiquement, on se dit que dans un monde où c'est le Dieu bon et juste qui est le chef, forcément, le méchant ne peut pas prospérer. Le méchant ne peut pas connaître une durée longue. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes finissent parfois par ne pas croire en Dieu ou bien quitter les choses de Dieu en observant des méchants traîner, durer dans le temps. Parce qu'il y a cette conception-là qui est philosophique ou bien, disons, logique dans notre tête. Si Dieu existe et qu'il est bon et juste, forcément, le méchant n'est peut-être qu'une sorte d'illusion. Ça, il ne doit pas durer. Le sort des méchants est catastrophique. C'est quelque chose, le méchant finit toujours mal. C'est vrai, et d'ailleurs Job va le confirmer, c'est vrai que ce qu'on vient de lire là, on va mettre de côté le côté court, mais revenir sur les conséquences. Quand on dit par exemple au verset 10, « Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. » Effectivement, nous voyons beaucoup de méchants à un moment donné perdre tout ce qu'ils avaient. Et même leurs fils perdre ça. Et c'est pourquoi, bien-aimés, il faut qu'on soit toujours prudent dans la réclamation dans des héritages. Nous ne connaissons pas nos parents à 100%. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait alors que nous, on était encore bébés, alors que nous, on n'avait encore que 5 ans. On ne sait pas comment ils ont acquis leur richesse. Et il peut se faire que quand ils ne sont plus là, ces richesses-là se dilapident d'une manière ou d'une autre et nous, on s'en inquiète et on se fait des soucis. Alors que c'est le schéma normal du fonctionnement des choses. Peut-être ceux qu'ils ont, les biens qu'ils ont mal acquis, comme ce verset nous le dit, ben ça sera restitué. Donc, chacun de nous doit apprendre à construire sa vie avec Dieu et non pas à dépendre des richesses héritées directement par les parents ou familialement. Parce que on peut peut-être se mettre à construire sur le sable parce que c'est des richesses qui doivent être restituées d'une certaine manière au camp qui avait apporté ça, alors que toi, tu es du camp de la lumière. Donc, soyons prudents par rapport à tout ça. Et nous, on a vu, par exemple, les richesses du dictateur Mobutu, puisque j'en parle, puisque c'est mon pays d'origine, donc je connais les choses beaucoup plus que si je devrais parler de Staline ou de Ceausescu. Voilà, donc on a vu dernièrement, même sur YouTube, si vous allez sur YouTube, vous allez voir son avion présidentiel qui est livré comme épave dans un terrain pour être désossé. Et quand vous voyez l'intérieur de l'avion, mais c'est extraordinaire de confort. Mais voilà, il n'y a pas eu de repreneur. C'est comme si tous les biens de ces gens-là doivent s'en aller dans la destruction. Puisque ça vient du monde de la destruction. Ça vient du monde satanique parce que ces gens-là ont tué, ils ont violenté, ils ont pillé, ils ont fait mal pour avoir tout ça. Et souvent, on voit que ces biens-là s'en vont. Et nous, on a vu les trois fils principaux de Mobutu mourir quelques années après lui. Ils n'ont même pas atteint. Il y a un peut-être qui a atteint 50 ans, mais tous les autres n'ont pas atteint 50 ans. Donc, c'est ce qui est écrit là. Donc, même les fils vont partir du mauvais comportement de leurs parents s'ils ne viennent pas à Dieu. Voilà, donc ce que le méchant acquiert par des mauvaises façons, ça finit toujours mal. Donc on nous dit que il vomira même ce qu'il avait mangé. Verset 11, la vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Donc on a vu le grand dictateur Mobutu qui se présentait. J'ai vu même une vidéo où il était accueilli par la reine d'Angleterre, mais il y avait des gens qui criaient son nom. Mais c'était en Angleterre, mais c'est comme si c'était lui qui avait plus de succès que la reine d'Angleterre. Donc vous voyez que quelqu'un de debout, de fort, général et puis maréchal à la fin, quelques années avant sa mort, et puis vous le voyez une année avant sa mort, presque impotent, n'arrivant pas à descendre de l'avion, miné par le cancer. Voilà. Amaigri, faible, et en plus filmé par toutes les caméras. Donc ces versets-là sont vrais. Sont vrais. Le sort du méchant, des méchants, c'est à déplorer. On ne doit pas souhaiter acquérir les choses par la méchanceté. Il faut faire très attention. La voie de la méchanceté, c'est pas bon. Et maintenant, ça ne veut pas dire forcément, on revient maintenant sur les versets 4 et 5, « Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court ?» Oui, ce verset-là peut être vrai dans le sens divin du terme. Court, vu par Dieu, c'est court. Mais vu par les hommes, des gens comme nous, tu es né sous la dictature, tu grandis, tu finis, tu as le bac, tu es toujours sous la dictature, tu finis l'université, tu es toujours sous la dictature, ça paraît long pour nous. On a une sensation d'éternité du mal. C'est une sensation, mais pour Dieu, ça paraît très court. Mais pour les humains, ça peut paraître long. C'est pourquoi ce verset-là, la personne parle, mais vraiment pour accuser Job, pour dire tu fais partie des méchants. D'ailleurs, voilà le sort des méchants. Mais en réalité, c'est ce que nous allons voir au chapitre 21. Le sort du méchant est assez complexe. Ce n'est pas toujours court, son temps de règne. Humainement parlant, ce n'est pas toujours court. D'ailleurs, même la Bible le dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Si Dieu ne veut pas la mort du méchant, ça veut dire que le méchant ne meurt pas facilement. Hein? Donc, puisqu'il veut sauver le méchant. Donc, combien de fois on n'a pas entendu, même dans le monde, « Ah, ben c'est celui-là de la famille qui était le plus bon, c'est celui qui meurt en premier. » Voilà. Et c'est les mauvais qui restent. Et ça énerve beaucoup de gens qui disent « Mais où est votre Dieu ? Où est votre Dieu ? Où est Dieu dans cette affaire-là ? C'est les méchants qui restent. » Oui, mais la Bible dit que Dieu veut sauver les méchants. C'est normal qu'il dure. Mais d'une manière logique, on se dit « Non, 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 le méchant, lui, ne doit pas durer. Il est méchant, donc Dieu doit le frapper vite. » On s'attend souvent à ce que le méchant soit vite frappé. C'est une erreur. Dieu veut sauver d'abord le méchant. Mais le méchant finira par être frappé s'il ne se repent pas. Mais nous ne devons pas mesurer ça à l'échelle humaine. On risque d'être déçu et de s'en prendre à Dieu injustement parce que Dieu a ses priorités, a ses plans. Voilà. On sait qu'on doit savoir que le sort du méchant est grave, est une grande souffrance, mais toutefois, ne soyons pas dans la logique du tic au tac, puisque quelqu'un est méchant, donc demain il se fera attraper, demain il se fera tuer, on se trompe. Combien de fois nous, on a souhaité voir un chauffard qui nous a mal dépassé, se faire arrêter par les policiers à 2 kilomètres plus tard, mais finalement ils ne se font même pas arrêter, donc ils échappent. Mais ils échappent selon nos attentes à nous. Mais personne n'échappera au jugement de Dieu. Mais attention à vouloir prendre la place de Dieu dans le jugement. Ce qui va créer beaucoup de déceptions et peut diminuer notre foi en la vérité, en la droiture. Donc oui, le sort du méchant est une grande détresse, mais attention, ce n'est pas toujours dans le temps que nous, on pense. Voilà, oui.
Question Internet. Les paroles des amis de Job sont-elles considérées comme une tentation, donc venant du diable, ou comme une épreuve que Dieu a permis afin de purifier Job?
Tout ce que Dieu permet, finalement, ça devient comme une épreuve pour nous. Hein. Donc, du moment que ça nous arrive, c'est que Dieu a permis. Donc, oui, ça vient du diable, mais c'est permis par Dieu. Donc, du fait que c'est permis par Dieu, ça devient une épreuve. Mais le travail qui est fait là, c'est le travail de l'homme et du diable pour épuiser Job. L'homme veut avoir raison parce que l'homme est en but à une réalité, c'est que Job souffre trop. S'il souffre trop, c'est que forcément il a fait quelque chose de mal. Voilà, l'homme est légaliste par nature. Or, nous avons affaire à un Dieu qui est droit, qui a la loi, mais il a aussi la grâce. Et à l'époque, la grâce n'est pas encore connue. Donc les gens se disent le mal d'être châtié immédiatement, mais ils ne connaissaient pas Dieu comme il faut. Voilà. Nous continuons, chapitre 21, réponse de Job à Tsophar.
Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regarde-moi, regardez-moi, soyez étonnés. Et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génies se conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'ils le sentent. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui? Quand le nombre de ses mois est achevé, est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? À lui qui gouverne les esprits célestes, l'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. Les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplis de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie.
Voilà, donc Job redit encore à ses amis, il y a de la méchanceté dans vos réponses. Ce sont des consolations vaines. Vous ne faites que m'attaquer et me charger, comme d'ailleurs Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, nous avions dit dans au chapitre 20 que Tsophar sort la thèse selon laquelle le méchant est tout de suite sanctionné. Ça ne dure pas sa méchanceté. Job le contredit. Job dit non, c'est pas ce qu'on voit. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que le méchant, ça dure. Donc, il a même un endroit où il dit que dans sa vieillesse, il augmente sa force. J'ai oublié le verset donc, où il dit carrément que dans sa vieillesse, donc le méchant, il dure, il fait les choses, il est bien. Au fait, quand on lit le chapitre 21, ça nous fait penser à quoi? À un autre livre, ça nous fait penser au psaume, hein? Au psaume 73. Voilà, donc ça a été le même problème qu'Azaph a connu. Azaph, injuste aussi, a dit à Dieu, mais je ne comprends pas. C'est les méchants qui sont pleins d'embonpoint. Ils sont forts, ils sont bien. Ils sont bien. Bien-aimés, quand vous allez à Dubaï, quand vous allez en Arabie Saoudite, voir les édifices qui y a là-bas, vous dites, mais comment ces méchants-là prospèrent tranquillement? Quand vous allez à New York, vous dites, mais comment les Bill Gates, aujourd'hui, maintenant, vous savez, quand nous, on était jeunes, le plus riche du monde avait dans les, je crois, 36 milliards. Mais aujourd'hui, c'est 120 milliards, je crois. Donc, ça dépasse l'entendement. Et ils sont nombreux donc, à avoir atteint 100 milliards, déjà. Donc, ils sont peut-être 4. Je me suis dit, mais comment cela se fait-il? Job dit, non, mais Tsophar, c'est le contraire. Je ne comprends pas. C'est les méchants qui sont bien. Leurs enfants prospèrent devant eux. Et nous connaissons la réponse qu'Azaph avait reçue dans le psaume 73. Peut-être qu'il faut qu'on résolve ça. On va lire peut-être le psaume 73 pour écouter la progression d'Azaph. Azaph était dans la logique de Job, une logique humaine où on bien aimé, même si on n'est pas parfait, quand même on est conscient que comparé avec les gens comme les chanteurs du monde, les mafieux, on va pas dire quand même qu'on est pareil, voilà. Donc on est imparfait, tous sont pécheurs, mais nous ne sommes pas comme eux. Nous avons quand même nous la conscience du mal et du bien pour rejeter le mal, voilà. Et quand maintenant toi tu as cette conscience là et tu essaies de t'appliquer à cela, tu vois finalement que c'est toi qui es le plus pauvre. C'est toi qui souffres d'une maladie. Et bien sûr, nous, quand on les regarde par le prisme de la télé. Or, à la télé, tout le monde est toujours bien. Puisque, vous savez, il faut savoir que la télé, ça se prépare. Donc, les gens sont maquillés, les gens sont arrangés. Tout ce qu'on voit à la télé, c'est préparé d'avance. Les films, n'en parlons pas. Ça, c'est encore une préparation donc mensongère. Bon, alors, quand tout ça t'est présenté à la perfection, tu te dis, mais eux, ils sont bien. Ils prospèrent. C'est le problème de beaucoup de justes. Donc, nous allons lire le psaume 73, un juste qui a connu ce problème-là.
Psaume 73, psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parle méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux.
Donc, ils s'énervent contre Dieu, quoi. Ils raillent Dieu. Donc, ils élèvent leur bouche. Donc, ils s'opposent à Dieu frontalement. Au fait, quand on lit ce que, quand on entend ce que l'ancien vient de lire et qu'on relit un peu Job, on dit que c'est la même chose. Donc, on voit verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Il dit, ces gens-là sont impudents face à Dieu, effrontés face à Dieu. Mais bon, qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Voilà. Arrogant face à Dieu, que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Job dit, mais pourtant ils sont toujours en possession du bonheur. Donc, c'est vraiment ce qu'on a lu, on vient de lire en première partie. Nous continuons alors la suite.
Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu.
Amen. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que j'entre dans le raisonnement de Dieu. Pour comprendre ça, bien-aimé, il faut entrer dans la sagesse, le raisonnement, la pensée divine globale. Sinon, bien-aimé, tu as beau être le meilleur chrétien, il y aura un problème. Vous savez, Richard Rembrandt a demandé aux chrétiens, à l'époque de la persécution forte, il a demandé à des amis chrétiens russes, il a dit, vous faites le travail du Seigneur, mais vous êtes triste. Pourquoi? Ils lui ont dit, quand tu évangélises et que quelqu'un se convertit, tu sais qu'après ça, il va se retrouver en prison et que ses enfants et sa femme vont rester seuls. Comment tu peux être dans la joie? Bien-aimé, ce n'est pas facile d'être juste. Heureusement, comme Richard Rembrandt dit dans le livre, il dit, c'est la preuve que l'œuvre de Dieu en nous, ça ne vient pas de nous. C'est vraiment Dieu qui nous maintient. Parce que lui-même, à peine il a amené quelqu'un en Christ, quelques mois plus tard, lui-même se fait emprisonner, il rencontre cet homme-là en prison. Et cet homme a une femme et des enfants. Ah, il regarde le monsieur et dit, est-ce que vous ne m'en voulez pas de vous avoir fait connaître Jésus? Le monsieur a dit, au contraire, je ne te remercierai pas assez de m'avoir fait connaître Jésus. Comment une réponse comme ça peut sortir? C'est la vie divine qui permet cela. C'est inhumain. L'homme ne peut pas, alors que ta femme et tes enfants se retrouvent dans la galère. Tu ne peux pas sortir une réponse comme ça. C'est qu'il y a en toi, quelque chose qui dépasse le raisonnement humain. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui entre dans tout enfant de Dieu. C'est pourquoi, n'ayons pas peur de parler. Il y aura parfois des conséquences, comme on est en train d'expliquer. Mais le Saint-Esprit est là pour combler tout ça. Et c'est pourquoi il faut regarder les choses dans la sagesse divine, dans la logique divine. C'est comme ça qu'on peut s'extraire de la souffrance humaine pour vivre dans une qualité de vie céleste, malgré le fait que tu es en prison. tu ne sais pas ce que sont devenus tes enfants, malgré le fait qu'on vienne te dire, ben ils sont morts. Mais bon, tu es dans une vision céleste, tu vas les retrouver au ciel. Tu es dans une vision céleste, Dieu contrôle tout. Mon Rédempteur se lèvera le dernier, même s'il me reste la peau. Je sais qu'il est là, c'est lui le chef qui contrôle tout. Bien-aimé, ça, c'est des choses qui nous amènent dans la profondeur. Donc là, Asaph, pour être libéré de ce poids-là, il a dû entrer dans la profondeur de la pensée divine et comprendre que finalement, non, la vision qu'il a du bonheur des méchants n'était qu'une vision humaine. Voilà, nous continuons pour finir le raisonnement d'Asaph.
Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.
Amen, amen. Donc finalement, Asaph, il dit, quand j'entre dans la sagesse, dans la pensée divine, je vois le sort des méchants. Je vois comment ils finissent. Vous savez que quand les communistes emprisonnaient les chrétiens comme ça, 15 ans, 10 ans après, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils avaient comme collègues de prison? La personne même qui les avait envoyés en prison. Parce que c'est comme ça que ça se passait chez les communistes. Donc il y avait des purges. Donc il y avait des vagues comme ça où on soupçonne, ah vous là les 50, vous cherchez à faire un coup d'État, allez prison. Donc c'était tout le temps, on avait peur de coups d'État, on avait peur d'être trahi, c'était le régime de peur, les régimes dictatoriaux sont comme ça. Et donc finalement, le méchant au début, il semble fort, il semble bien, mais Asaph dit, mais parce que nous regardons avec un regard humain, mais quand on regarde avec le regard de Dieu, on se rend compte que les méchants ne sont pas aussi heureux que ça. Voilà. Quand on regarde à la télé, effectivement, on les trouve heureux. Mais bien aimé, vous vous rendez compte que s'il faut aller la nuit dans les cimetières pour pouvoir faire des incantations au diable, vous croyez que ça, c'est le bonheur? S'il faut connaître sa maman ou sa sœur pour avoir un poste ministériel, c'est ça le bonheur. La vie des méchants est difficile, mais quand c'est vu de l'extérieur, ça paraît le bonheur total. On a vu comment Michael Jackson a fini. C'est très difficile. Toi, tu arrives à marcher, tu peux aller acheter, faire des courses à Leclerc, venir te faire un bon poulet. Mais lui, il était incapable. Il passait son temps avec du propofol. Donc, tu dors pendant que comme le koala, il dort 22 heures. Donc, il va dormir pendant 16 heures du temps. Et quand il se réveille, on le montre à la télé, il dit deux ou trois phrases. Les gens acclament, les gens sautent. Il y en a qui tombent évanouis. Mais lui-même, il est mort. Mais quand les gens le voient bien habillé, maquillé, ils pensent qu'il est heureux. Les gens s'imaginent, mais il peut sortir avec toutes les femmes qu'il veut, il peut être accueilli par n'importe quel roi du monde. Mais oui, mais tu ne connais pas sa vie. C'est un regard extérieur qui fait que nous pensons que les méchants sont heureux. Mais quand on regarde à l'intérieur, Asaph dit, quand j'ai regardé à l'intérieur, je me suis rendu compte que finalement, les méchants ne durent pas comme nous, on le voit. Ça semble durer parce que on compare à notre propre souffrance, on compare à notre à nos carences matérielles. On dit, mais nous, vous savez, quand on vous voyez, nous, on est en train de faire notre étude dans une maison avec des caméras. Tout l'ensemble de notre matériel ne dépasse peut-être pas 15 000 euros. Mais maintenant, quand tu compares avec TF1, un immeuble à Paris, un très grand immeuble à Paris, avec peut-être une seule de leurs caméras, c'est le prix de tout notre matériel réuni. On se dit, mais tiens, il y a un déséquilibre entre les justes et les méchants. Comment Dieu peut laisser les choses ainsi? Ah, bien-aimé, vous savez, si Dieu nous donnait les mêmes moyens que les méchants, est-ce qu'on restera juste? Ça aussi, c'est une question. Voilà. C'est ça aussi, comment dire, la rançon, non. Je dirais plutôt, c'est ça l'accompagnement des justes. Il faut qu'ils soient accompagnés de la modération pour éviter qu'ils chutent à leur tour. Salomon, c'est pourquoi Salomon a dit, donne-moi juste ce qu'il me faut, quoi. Parce que, ben, attention, l'excès de bien, l'abondance peut amener des chutes à des chutes. Et puis, le juste, quelle est sa force? C'est Dieu. Maintenant, s'il a trop de choses, sa force ne sera plus Dieu. Donc, si sa force, c'est Dieu, eh bien, c'est bien que ça soit Dieu. Mais pour que ça soit concrètement Dieu, il faut qu'il lui manque le reste, les autres choses. Il faut qu'il les aille au point que Dieu devienne inutile à ses yeux. D'ailleurs, c'est ce que disent les méchants dans le livre de Job quand il nous est dit, qu'est-ce que le Tout-Puissant, au verset 15, qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Donc, c'est des gens qui ont tout. Ils se disent, mais Dieu, il me servira à quoi? Donc, nous aussi, lorsqu'on commence à avoir beaucoup de choses, eh bien, l'importance de Dieu naturellement diminue. C'est pourquoi Dieu nous maintient dans une modération sans que ce soit le manque pour le manque, mais c'est une modération pour éviter qu'on passe dans l'autre camp. Donc, contentons-nous de Dieu comme richesse. Voilà, donc c'était pour dire que Job, il se trompe. Il est dans une vision humaine des choses, mais dû aussi aux souffrances qu'il connaît. Vous savez, quand on souffre beaucoup, c'est là que ces comparaisons viennent. J'ai raconté mon propre témoignage. Je pensais que jamais de ma vie, je serais jaloux. Donc, après m'être converti, quoi. S'il y avait quelque chose qui ne me faisait rien, c'était le bonheur de l'autre, quoi. Voilà. Qui me faisait même du bien, au contraire. Mais quand j'ai connu ma crise de douleur qui m'empêchait même de dormir et qu'en passant parfois au salon, je voyais les enfants regarder les matchs de basket ou ces gens-là couraient avec leurs tatouages, tout ça, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? Des païens comme ça, en bonne santé, en train de courir, et c'est moi qui suis KO comme ça. Et naissaient des germes de jalousie, je le dis. Donc, quand on souffre, eh bien, il y a des choses qui peuvent naître qu'on pensait avoir vaincues. Et c'est ce qui arrive à Job. Il commence à faire toutes ces comparaisons-là parce qu'il souffre trop aussi, quoi. Voilà. Mais il se trompe, comme Asaph s'est trompé à un moment. Mais quand on regarde les choses sous l'angle divin, lui-même Job aussi en parle un peu. Hein. Il dit, verset 18, qu'il soit comme la paille emportée par les vents, comme la balle enlevée par le tourbillon. Voilà, donc il parle un peu du sort final des méchants. Donc dans Asaph, on nous dit, il y a un sort final des méchants. Il y a une partie complexe. Cette partie, on l'a intitulée le sort complexe des méchants. Le sort des méchants n'est pas si simple que ça. Méchanceté frappe. Non, ce n'est pas si simple que ça. Il y a une parenthèse entre la méchanceté et la frappe de Dieu. Et cette parenthèse-là peut nous tromper. Et d'ailleurs, dans Asaph, c'est écrit, c'est pourquoi le peuple imite les méchants parce qu'il pense que c'est ça la voie de la réussite. Non, restons dans Dieu, persévérons dans la justice. Tôt ou tard, la justice payera. c'est la méchanceté qui se couchera, qui se noiera. Oui.
Il y a 5 questions Internet. Elles sont un peu longues et complexes. Donc, la première question. Dieu permet cela. Signifie que nous devons rester sans rien dire, sans rien faire.
Non, ça signifie qu'on doit discerner. Parce que nous, on a l'avantage que Job n'avait pas. C'est qu'on a tous ces textes-là. On a tous leurs exemples. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, je crois chapitre 10. Il a dit, mais il dit que vous avez l'exemple de vous, nous, les gens de maintenant, nous avons leur exemple. Donc, aujourd'hui, nous, quand ça nous arrive comme ça, qu'est-ce qu'on dit? En même temps qu'on cherche la délivrance, on cherche aussi la face de Dieu pour savoir en quoi il veut nous perfectionner. D'ailleurs, il y a un verset, je crois peut-être qu'on va lire ça, ça va être au chapitre 23, où Job dit que, quand on arrivera au chapitre 23, où il dit que il en sortira de cette épreuve comme l'or est purifié, quoi. Donc, il comprend qu'il y a une leçon à prendre de cette épreuve. Donc, nous aussi, nous devons, quand tout ça arrive, dire qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Voilà, parce que Dieu permet ça pour nous former et nous amener à une plus grande gloire, toujours. Oui.
On voit que Job ressentait le besoin de répondre aux paroles condamnantes de ses amis, ce qui est compréhensible. Aurait-il mieux fait de se taire malgré la douleur que ses amis lui infligent?
Ça, c'est la perfection. La perfection, c'est se taire, c'est s'en remettre à Dieu. Maintenant, il faut savoir que il y a des paroles qu'il dit qui sont justes. Ça peut être aussi l'émanation du Saint-Esprit. Dans ces choses-là, le silence ou parler, ça dépend de comment Dieu travaille dans chacun. Moi, je ne peux pas juger à 100% quelqu'un qui répond. Sauf quand c'est clair que cette réponse a été une erreur, il fallait se taire. Bon, en ce qui concerne Job, il y a des parties qui sont des erreurs, il y a des parties qui sont justes. Voilà, donc je pense qu'il devait être attentif à Dieu pour répondre comme il faut. Mais je pense que comme il était déjà lui-même dans une certaine colère contre Dieu, je pense que bon, il n'était pas disposé vraiment à avoir la sagesse totale de Dieu en ce moment-là.
Sachant que Dieu veut sauver tous les méchants, pourquoi Dieu leur permet réussite et prospérité, de fois même jusqu'à leur mort, alors que tout cela contribue à les endurcir dans leur voie?
Alors, Dieu sait à quel moment toucher quelqu'un. Il sait, parce que c'est lui qui nous a créés, il connaît les mécanismes du cœur humain. Le premier problème est le suivant. Si Dieu frappait tout de suite, après l'erreur, après une mauvaise voie, ça peut créer des faux justes, des gens qui ont juste peur qu'on les frappe. Exemple simple, les radars. Donc les radars, ça crée des faux justes, c'est-à-dire des gens qui ne roulent moins vite que parce qu'ils ont peur d'être flashés. Mais dès qu'il dépasse le radar, il recommence à rouler très vite. Donc, la frappe immédiate peut créer beaucoup de faux justes et gâcher le plan de Dieu qui est de sauver les gens en profondeur. Donc, les gens vont juste se tenir à carreau parce qu'ils ont peur de la sanction immédiate. L'exemple parfait de tout ça, c'est les 1000 ans. Pendant les 1000 ans du règne de Christ, les gens subiront des frappes immédiates. Tu fais une erreur, tu es frappé. Parce que tu es en face d'une police qui voit tout. Donc, erreur, frappe immédiate. Et c'est ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui nous est dit à la fin des 1000 ans? Quand le diable sera relâché, tous ces gens-là qui se tenaient à carreau par crainte de frappe immédiate, ils vont le rejoindre. ça veut dire que les frappes immédiates n'auraient pas changé le cœur. Or, Dieu veut changer le cœur. Donc, il veut amener l'homme à réaliser la vanité de ce que lui, il recherche comme force. Parce que quelqu'un que tu prives, il allait prendre sa bouteille de whisky, toi, tu entres au salon. Il se calme. Il se dit, ah bon, Patrick est là. Mais dès que tu vas dormir dans ta chambre, il surveille, il va encore récupérer sa bouteille de whisky, il boit. Donc, au fait, tu n'as pas changé son cœur par ta présence, tu as juste empêché. Mais le cœur est le même. Mais quelqu'un qui a bu le whisky et qui, finalement, devant même les cousins, les cousines, tout ça, il fait pipi sur lui. Ah ben, je crois que une semaine après, il va réfléchir à deux fois avant de prendre le whisky. Donc, je crois que, donc on l'a amené à constater la vanité de ce que lui pensait être une force, de sorte que, à juste titre, il choisit d'être juste, quoi. Voilà. C'est vraiment le travail profond de Dieu qui est d'épuiser l'homme, que l'homme réalise la vanité de ce qu'il est et qu'il épouse vraiment Dieu. Donc il y a ce travail-là qui se fait, et puis d'autres choses, hein, dans la complexité de Dieu. Oui.
Les enfants de parents chrétiens ont été préservés de certaines épreuves, à l'inverse de chrétiens non issus de familles chrétiennes. Viol, violence. N'est-ce pas plus facile pour eux d'aimer Dieu?
C'est ce que nous pensons, mais quand on lit les livres des chrétiens persécutés, on ne dirait pas ce que le bien-aimé ou la bien-aimée vient de dire là. Les enfants des chrétiens persécutés ont subi aussi de grands dommages, des emprisonnements, des tortures. Et là, circule sur Internet, par exemple, le témoignage d'un garçon qui a été dans l'homosexualité la plus abjecte, mais qui est sauvé. Donc, qui a été sauvé par Dieu. Donc, ça nous montre que la grâce de Dieu a une puissance infinie pour guérir les blessures les plus profondes. Donc, que l'on ait subi un viol ou qu'on ait vu son papa ou sa maman assassiné par quelqu'un, Dieu peut nous en guérir. C'est ça vraiment sa capacité, son amour et sa grâce et sa puissance, ça peut nous guérir de cela. Donc, vous savez, aujourd'hui, par exemple, les gens, ils présentent, vous savez, quand par exemple je viens faire un témoignage, j'étais grand homosexuel, ou bien j'étais sorcier, j'étais de la mafia sicilienne, tout le monde trouve ça extraordinaire. Mais bien aimé, spirituellement, ce n'est pas plus extraordinaire que quelqu'un qui était un fonctionnaire calme, qui gagnait sa vie 4000 euros par mois, qui payait bien ses impôts, qui a un bon diplôme, qui ne trouve pas la nécessité de Dieu. Vous croyez que qu'est-ce qui est plus difficile à convertir? Ce fonctionnaire ou bien cet homosexuel ou ces mafieux? Vu à vue humaine, ça paraît difficile de convertir le sataniste, mais c'est faux. La conversion est liée à l'orgueil, à la dureté du cœur. Quelqu'un qui est comme ça fonctionnaire, qui paye bien ses impôts, peut être plus dur de cœur qu'un mafieux qui a mal grandi dans les quartiers, mal famé. Il était jeune, il a suivi des amis, et puis il est devenu homme des mains. Ensuite, lui-même, il est devenu le boss. Mais il n'a pas conçu une méchanceté intrinsèque forte contre Dieu comme ça. Non, il est dans la mouvance, il fait les choses dans la vitesse. Et des gens comme ça, quand ils se convertissent, on se dit, oh, la puissance de Dieu. Mais quand maintenant un fonctionnaire tranquille se convertit, qui va lire, qui va écouter les témoignages sur YouTube? Vous allez voir. Donc, celui-là qui dit, j'étais sorcier, je me suis converti. 1 million de vues. Celui qui dit, bon, j'étais fils de pasteur, mais à un moment donné, je ne voulais pas trop de Dieu, mais après, je me suis converti. Ouf, ça, c'est sans goût, ça. Donc, on cherche le sensationnel, et on se trompe. Et peut-être c'est plus difficile même Pour quelqu'un qui est habitué avec nous ici, qui n'est pas encore converti, mais qui écoute la parole, qui est tout le temps là, mais qui n'est pas converti, ça veut dire que peut-être son cœur est plus dur que le cœur d'un mafieux. Donc, et de telles personnes, au lieu d'acclamer Dieu, quand on voit des gens comme ça simples, qui n'ont jamais connu de problème, qui se convertissent, on doit acclamer Dieu, on doit dire, mais cet homme-là pouvait dire que Dieu, il n'a pas besoin de Dieu, puisqu'il a toujours bien vécu. Peut-être son cœur est plus dur vis-à-vis de Dieu pour dire, oh, attends, je n'ai pas besoin de lui. Peut-être qu'il est plus orgueilleux encore. Alors que celui qui a pris les armes, c'est parce qu'il n'avait pas Dieu, il n'avait pas de secours. Il s'est dit, mais bon, c'est mon secours. Mais quand on lui révèle que c'est vain tout ça, et lui-même s'en rend compte, il revient vite. Donc, attention à notre... à comment on mesure les choses. Peut-être les gens qui ont grandi sans problème, ils sont plus durs même à convertir que les gens qui ont connu des problèmes. Donc, soyons prudents par rapport à ça, quoi.
Dans Job, quand Dieu dit à Satan, « Je te le livre, mais épargne sa vie », Satan aurait-il pu franchir la ligne et tuer Job sans la permission divine ?
Impossible, impossible.
Tu as dit que
il allait juste perdre officiellement la lutte, puisqu'on lui a dit, mais la lutte, ça tient au fait que tu lui épargnes la vie. Donc, si toi, tu cherches à le tuer, forcément, donc tu as échoué. Voilà.
Tu as dit que l'épreuve ne peut pas affecter la foi, mais plutôt dévoiler notre état. Pourtant, le Seigneur dit dans Marc 13, 19, « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement » du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Moïse et Élie ont craqué face à la pression répétée malgré leur fidélité à Dieu. Il y a donc un niveau élevé de preuve qui peut affecter la foi des
plus
sincères.
Pas d'épreuve, parce que épreuve, ça vient de Dieu. Vous voyez la différence, il faut qu'on comprenne, qu'on fasse la différence. Épreuve, c'est Dieu. Tentation, persécution, c'est le diable. Effectivement, il y a des niveaux de tentation et de persécution qui sont tels que l'homme peut craquer malgré le fait qu'il est un bon. Malgré le fait que c'est un bon, effectivement, oui. Mais l'épreuve, c'est-à-dire que c'est toi-même qui es Dieu, qui veut faire grandir ton fils. Tu cherches pas à baisser sa foi. Non, tu veux le faire grandir. Donc, d'ailleurs, Dieu maîtrise le début et la fin de l'épreuve. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. Donc, quand il laisse la tentation, donc qui se transforme en épreuve, il maîtrise la fin. Il dit... ça ne dépassera pas vos forces. Dieu a déjà tout calculé. Maintenant, quand il voit justement que cette pression et cette tentation, ça risque d'être trop fort pour nous, il arrête ça, comme il a arrêté pour Élie. Il a senti que Élie a échoué devant Jézabel. Ça veut dire qu'une nouvelle pression de ce genre-là, Élie peut défaillir, je l'enlève. Il a vu que Moïse a failli se constituer en Dieu en disant « Ne nous sortirions-nous nous pas de l'eau est-ce qu'on ne va pas vous sortir de l'eau ?» Et Dieu a dit « Ah, si Moïse arrive à la terre promise, on risque de le déclarer Dieu et il risque de céder à ça. Je le prends avant. » Voilà. Donc là, ce sont les tentations et les pressions extérieures, ce n'est pas Dieu.
Si personne ne peut tenter Dieu, pourquoi Satan parvient-il à obtenir ce qu'il veut de Dieu en l'emmenant à deux reprises à lui livrer Job ? Finalement, on a l'impression que Satan a eu raison sur Dieu puisque Job, son héros, était en train de craquer grave et de dire n'importe quoi et Dieu... Et Dieu s'est énervé contre Job et a dû intervenir pour ne pas le perdre.
Mais non, Job n'a pas craqué. Job a gardé la foi. 2 Corinthiens...
Il était en train de craquer.
Oui, mais il n'a pas craqué. Donc, qu'on soit en train de craquer, ce n'est pas craquer. 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Injuste, Il faut comprendre, bien-aimés, nous sommes sauvés pas par la perfection. Que ça arrive à l'un ou l'autre d'entre nous de faire une gaffe, ce n'est pas ça qui détermine qu'on a craqué. Hein? On craque lorsqu'on dit, bon, Dieu n'existe pas. Alors, on craque lorsqu'on dit, on s'est trompé, Dieu est faux. C'est là qu'on craque. Tant que Job, dans tout ce qu'on lit, il finit par dire toujours, c'est Dieu qui est Dieu, il est tout puissant. Eh bien, il n'a pas craqué. Il est en colère, mais il n'a pas craqué. Voilà. Donc, d'ailleurs, on avait dit à Job, maudit Dieu et meurt. Il dit non, pas question.
Quelle est la ligne de démarcation entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine? Exemple, les musulmans disent qu'aucun sorcier ni autre personne ne peut mettre fin à la vie de son prochain car Dieu connaît le nombre exact de jours et d'années qu'on doit vivre sur terre avant la naissance et c'est lui seul qui ôte la vie. Aussi, beaucoup de mes amis musulmans n'ont-ils pas peur de tricher, voler, agresser, faire de faux mariages car disent-ils, tout dépend de Dieu, rien ne se passe sans sa permission et si tu réussis même en grugeant les gens, en trompant ta femme, c'est que Dieu l'avait prévu dans ta destinée. Est-ce cela la souveraineté de Dieu?
Non, là c'est le mal, c'est le péché. La souveraineté de Dieu, c'est que Dieu contrôle tout, Dieu est dans la maîtrise de tout. Mais être à la maîtrise de tout, ce n'est pas impulser le mal chez les gens, pas du tout. Donc d'ailleurs, Dieu jugera le monde. S'il jugera, c'est qu'il rend les gens coupables de ce qu'ils font. Voilà. Maintenant qu'il sache tout, c'est sa capacité. Moi, ça me dépasse de me rendre compte que Dieu sait tout. Ça me dépasse. Qu'ils connaissent le nombre de nos jours, ça me dépasse. Mais on ne doit pas se mettre à sa place pour comprendre toutes ces choses-là. Il faut les laisser à sa place. Rester à notre place de choisir le bien ou le mal. C'est ce que Dieu nous propose. Maintenant, à de telles personnes, il faut leur dire la vérité. Leur lire l'histoire du jeune homme, du riche et de Lazare. Leur lire ça, dire attention, il y aura un jugement. Leur lire Apocalypse 20. Qui nous montre qu'il y a un jugement, les livres sont ouverts, les actes mauvais sont cités. Matthieu 12 qui nous dit que même les paroles qu'on cite, les paroles qu'on dit, ben, comme là les gens disent, on n'a pas besoin de Dieu, toutes ces paroles-là remonteront. Donc il faut leur lire la parole, c'est ça la solution. Voilà, nous continuons chapitre 22.
Chapitre 22. Éliphaz de Théman prit la parole et dit « Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il ? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi ? Ta méchanceté n'est-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges. Et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avec le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, « Retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ?» Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront. Et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires qui disparaissent. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains.
Voilà, donc maintenant, les amis de Job passent à la vitesse supérieure. Donc au début, on disait, oui, mais ils accusent Job d'être quelque part méchant en fonction de ce qui lui arrive comme catastrophe. Mais il n'y a aucun élément qu'ils sortent. Il n'y a pas un péché concret qu'ils émettent. Mais là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils commencent par dire, ben, tu te crois sage. Et ce n'est pas ça qui va faire la différence devant Dieu. Tu n'es pas spécial. Dieu seul... C'est le refuge hein, de tout le monde pour écraser les autres. Parfois, on les compare à Dieu et puis comme ça, c'est bon, c'est réglé. Et ils lui disent maintenant, bon, au verset 6, tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus, tu ne donnais point. Il lui cite quelques actes méchants pour dire, attends, tu as des choses aussi à... te reprocher, tu renvoyais le veuve à vide. Maintenant, nous avons le choix, croire ce que les amis de Job disent ou ce que Dieu lui-même dit sur Job. Donc quand on lit Dieu, quand Dieu parle, Dieu dit que Job était intègre. Voilà. Et droit. Et là, l'ami sort des choses. Et vous allez dire, je prends la défense peut-être de Job, mais c'est des choses qu'on connaît. C'est que... quand quelqu'un est patron, quand quelqu'un est grand et dans une position, il y a toujours des gens pour le discréditer. Il y a toujours des gens pour raconter des faussetés. Et quand on n'est pas encore à des places comme ça, on ne connaît pas ça. On croit que tout ce que les gens disent sur Macron, sur un tel, tout ça est vrai. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Donc il y a des choses que des gens inventent aussi. Voilà, donc ne nous précipitons pas sur les accusations qu'on a entendues de quelqu'un. Donc on peut supposer qu'il y a des gens aussi qui se sont plaints de Job sans que le fondement soit vrai, parce que Dieu lui-même dit que Job était intègre. De cela qu'on peut sortir, ah oui, mais un tel a dit ceci, un tel a dit cela, un tel... Oui, mais c'est des tels avec qui on a peut-être travaillé, ça s'est mal passé, et ils vont colporter des faussetés. Voilà, donc c'est ce que moi je peux penser de ces accusations-là. Et du coup, l'homme, ben, il enchaîne, Eliphaz, il enchaîne et pour dire, ne suis pas la route des méchants, Job. Donc il accuse Job d'abord clairement et il dit, ne suis pas la route des méchants, repens-toi. Voilà, verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, hein, le verset que... beaucoup de faux pasteurs utilisent pour prendre les offrandes des gens. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Écoute, Job, reviens à Dieu, quoi. Tu es dans l'égarement. Reviens à Dieu. Et donc, Job est carrément laminé dans l'accusation. Voilà. Et c'est ça qu'on peut dire du chapitre 22, oui.
Comment de soi-disant amis peuvent autant infliger leurs amis souffrants? Ils n'ont aucune compassion envers Job.
Voilà, donc ça peut arriver. Ça peut arriver que peut-être Job paraissait être supérieur à eux. Bon, c'est le moment de régler les comptes. Vous dites, mais t'es pas si supérieur que ça, quoi. Voilà, donc parfois il y a. des jalousies larvées. Voilà, ça existe même entre amis, des jalousies internes larvées qui ne se manifestent pas tant que celui qui est l'objet de la jalousie est fort. Le jour où il paraît faible, ben on sort ce qu'on aurait pu sortir autrefois. Ça existe.
Nous, chrétiens, nous voyons que les méchants prospèrent malgré leur méchanceté.
C'est une fausse vision qu'on a décrit tout à l'heure. Bon, je pense que ce soit toi, que ce soit le frère Siméon, nous avons un certain âge, nous avons vu des dictateurs, nous avons vu des gens évoluer, on a vu Bokassa, on a vu Mobutu, oui, il y a un moment où pendant 15 ans, ils semblent prospérer, mais on a vu la fin. Donc, il faut aussi être capable de surveiller aussi jusqu'au bout. Parce que surveiller que le moment où toi, tu manges, vous divisez une omelette de 3 œufs par 4, c'est en ce moment-là que toi, tu regardes à Brigitte Macron. Mais effectivement, tu ne retiens qu'elle, elle est bien. Mais surveille aussi jusqu'au bout sa fin. Est-ce que les gens savent qu'un jour, Bernadette Chirac, elle arrive dans son restaurant habituel avec son chien. On dit... « Madame, vous n'entrez pas avec le chien ?» Elle dit, « Mais je suis toujours venu avec mon chien. Vous m'avez toujours laissé entrer. Qu'est-ce qui vous arrive ?» Il dit, « Mais madame, maintenant vous n'êtes plus la femme du président de la République. » Et Bernadette Chirac qui dit, « C'est plus dur l'après-président de la République que l'après-ministre. J'aurais préféré que mon mari soit juste ministre. » Voilà. Voilà. C'est des choses comme ça qu'on ne sait pas. Nous, on se souvient seulement de Jacques Chirac président avec tous les honneurs, mais on ne voit pas le Jacques Chirac malade qu'on est en train de soutenir par quelqu'un pour marcher. Qui sait, pour ceux qui ont un certain âge, qui ont connu Sean Connery, le monsieur 007, James Bond, mais qui sait que pendant 4 ans, les 4 dernières années de sa vie, malgré sa très très belle maison, qui sait que il était dément, il souffrait de démence, et que sa femme disait même au médecin, donne-lui la marijuana pour qu'il passait peut-être 14 heures à dormir, tellement il était dans la dépression, dans la démence. Sa femme ne souhaitait que sa mort pour que tout cela s'arrête. Tout ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de lui donner une mort, de la mort par euthanasie. Mais c'est 4 ans de galère avec toute la richesse. Qui sait ça? Si tu regardes le James Bond qu'il a fait, tu vas dire, oh, mais comme il est beau, fort, grand, tout ce que tu veux. Populaire, millionnaire. Mais oui, mais va jusqu'au bout de sa vie, tu verras ce qu'Azaf a compris aussi, jusqu'au bout. Je pense que c'est ça qui nous manque parfois, de regarder jusqu'au bout.
En revenant aux amis de Job, donc l'internaute dit, on dirait plutôt que leur véritable nature a été révélée suite à la chute de Job. N'étaient-ils pas plutôt des envieux?
Non, moi je pense qu'on est ne doit pas être trop dur non plus. On est des humains. Hein. On est des humains. Comme je dis, il peut y avoir des petites jalousies, mais qui sont étouffés quand même par des bonnes relations que les gens ont et que la faiblesse ressort. Ça ne veut pas dire forcément que les gens sont foncièrement mauvais, mais qu'ils sont imparfaits. Moi, je préfère mettre ça sur le compte de l'imperfection. Les gens sont imparfaits et ces petites jalousies-là peuvent trouver maintenant l'occasion de s'exprimer au moment où l'autre est très faible.
Toujours par rapport aux amis de Job, une autre question. On ne peut pas dire qu'ils sont vraiment amis, car la Bible dit que amis aiment en tout temps.
Oui, mais ça c'est, comment dire, l'amitié profonde, la véritable amitié. Mais là, quand on dit ami, c'est l'acception usuelle qui veut que l'ami, c'est celui avec qui on passe le plus de temps. Voilà, donc ça. Ça ne veut pas dire que puisqu'on passe le plus de temps avec quelqu'un, c'est qu'on est vraiment amis en profondeur. Mais en concret, ça paraît ainsi. Donc on va l'appeler quand même ami. Voilà. Aujourd'hui, on suppose, faut pas qu'on m'accuse de dire de fausses choses, mais on suppose que c'est le garde du corps de Idriss Déby qui l'a tué. Mais pour le maître garde du corps, c'est forcément un ami. Tu peux pas mettre n'importe qui garde du corps. C'est-à-dire, cette personne-là est armée. Elle est armée et derrière toi. Donc, c'est que ça ne peut être qu'un ami. Voilà. Donc, mais après, il y a les petits péchés qu'on peut garder. La petite contrariété qu'on a subie un jour, on n'a pas pardonné à son ami. Un jour, le diable utilisera ça pour que tu fasses quelque chose de grave. Quand on a dit à Thomas Sankara que Blaise complotait contre lui, il s'est dit, c'est mon ami, je vais faire comment maintenant? Il a dit, si Blaise complote contre moi, je suis mort, parce que c'est mon ami. Voilà, donc effectivement, c'est Blaise qui l'a tué en utilisant des gens. Mais c'est des amis, mais après, les gens ne sont pas parfaits. L'ami peut flancher à cause des choses qui étaient à l'intérieur, qui n'ont pas été sorties.
Et la personne dit, c'est des copains alors?
Non, selon l'acception usuelle, c'est des amis parce qu'ils partageaient les choses. Plus que des copains, ils partageaient vraiment les choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la perfection.
Les amis de Job connaissaient-ils Dieu?
Mais oui, puisqu'ils en parlent clairement là. Oui, oui.
Finalement, cela n'a-t-il pas permis que Job connaisse la crucifixion de la chair à travers ses amis?
Bien sûr. Nous avons dit à un moment donné, Job était le type de Christ. Ce que Job était en train de subir, c'est ce que Christ a subi. Il a souffert, mais pendant qu'il souffre, on se moque de lui en plus. Sauve-toi toi-même. Et on l'a considéré comme puni de Dieu, selon Isaïe 53. Donc Job est un type de Christ dans ce cadre-là. Voilà, nous allons finir avec le chapitre 23. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va plutôt prier, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui.
En Jésus, est-il bon d'avoir des amis, entre parenthèses, relations exclusives? Ne sommes-nous pas tous frères et sœurs?
Oui, on est tous frères et sœurs, mais... comme on a dit, amis, c'est peut-être des gens avec qui on passe le plus de temps. Et le plus de temps, on se dit tout. Voilà. C'est ça. Mais on ne doit pas choisir. C'est des choses qui se font naturellement. C'est ça la différence avec les chrétiens. On ne choisit pas un tel comme ami. Ça se fait naturellement. Quelqu'un avec qui on se promène, on se partage tout, on mange souvent ensemble, ça, sans discriminer les autres frères et sœurs. Et je pense quand même que le lien frères et sœurs doit être plus puissant que les liens d'amitié dans le milieu chrétien. Donc, je sais que le jour où celui que je pense être un ami chrétien ne suit plus la parole, au fait, mon lien de frère et sœur est plus important que les liens amicaux. Donc, le jour où il y a un problème avec Christ par rapport au lien de frère et sœur, effectivement, ça va suivre avec le côté ami. Donc, puisque le lien de frère et sœur, c'est plus fort que le lien de frère et sœur, même familial. Voilà, c'est un lien céleste, c'est un lien à jamais, c'est un lien en Christ. Maintenant, dans la vie concrète, on ne va pas toujours manger tout le temps, tout le monde ensemble. Déjà, si, admettons qu'on est 1000 dans une église, on ne peut pas manger chaque jour ensemble avec les 1000 personnes. Voilà, donc il y a peut-être celui avec qui on habite le plus proche, on va plus faire les choses ensemble, courir ensemble, aller au marché ensemble, mais tout en sachant que tout ça est coordonné par le lien fraternel, quoi. Donc le lien fraternel est quand même le plus important. Donc si on a des amitiés comme ça, des affinités comme ça en Christ, ça ne doit pas dépasser. Par exemple, la personne avec qui je suis souvent vient attaquer un frère ou une sœur avec qui je ne suis pas souvent. Je dois être capable de défendre la sœur ou le frère absent pour dire non, c'est quand même notre frère, c'est quand même notre sœur. Voilà l'attitude qu'on doit tenir, quoi. Je ne dois pas prendre parti puisque je suis souvent avec un tel, quoi. Voilà, donc il faut veiller à cela, sur cela. Ok.
N'est-il pas nécessaire pour le chrétien de vivre en dehors de ce système au monde et construire une communauté avec nos propres repères?
Non, la Bible dit nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. L'apôtre Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 5. On va lire peut-être hein, pour que ça clôture 1 Corinthiens 5, je crois, verset 11. Voilà. Donc on ne peut pas sortir du monde. Voilà. 1 Corinthiens 5, 11, hein, je crois.
1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger?
Ah, donc c'est le verset 9, hein, à partir du verset 9, alors.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, des ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde.
Voilà, donc on nous dit que ce n'est pas une coupure absolue. Il ne faut pas qu'on ait une coupure absolue avec le monde. Autrement, il faut qu'on sorte du monde, qu'on aille au ciel. Donc c'est juste qu'on ne doit pas avoir des amis débauchés, idolâtres, tout cela, et qui se disent frères, qui se disent chrétiens, donc c'est ça. Mais pour les idolâtres et les débauchés du monde, on doit être en contact d'une certaine manière permise par Dieu pour les amener à Christ. Voilà. Donc nous allons prier que Dieu nous aide à ne pas tomber dans l'erreur de nous comparer dans un mauvais angle de vue avec les païens, en croyant qu'eux, ils sont tranquilles. Vous savez, surtout quand on est dans une journée de jeûne et que tu traverses les supermarchés, tu vois les païens aller acheter leurs sandwichs tranquillement. Tu as comme une sensation d'injustice, mais c'est pas vrai. Christ aussi a souffert pour nous, voilà, alors qu'on était païens. À notre tour aussi de souffrir pour que la grâce de Dieu se répande dans l'humanité. Voilà, donc, et bien aimé, à la fin des temps, tout cela sera rétabli. Chacun verra sa juste récompense par rapport à sa vie terrestre et on ne regrettera pas tous ces temps difficiles qu'on peut traverser en ayant l'impression que les méchants, eux, ils ne connaissent pas de difficultés. Je dis bien en ayant l'impression, la vérité c'est faux. Ils connaissent aussi des difficultés et puis leur fin est toujours tragique. Donc nous allons prier que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus, qu'on garde la foi malgré tout, qu'on ne se compare même pas en tant que chrétien pour dire « mais comment lui n'est jamais inquiété, on ne connaît pas tout ». Donc soyons simples, cherchons toujours Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à chercher toujours ta face, et non pas chercher à être dans une sorte d'équilibre humain, de souffrance, équilibre humain d'épreuves, vouloir voir que les épreuves tombent sur les autres pour nous sentir comme bien, Seigneur, comme les gens qui, quand on leur dit qu'ils ont eu 2 sur 20, ils sont malheureux, mais quand ils apprennent que la première note, c'est 3 sur 20, ils sont bien maintenant parce que tout le monde a échoué. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que tout le monde soit béni et nous voulons, nous, à chaque fois, espérer en toi, compter sur toi pour la délivrance. Merci Seigneur de nous apprendre, Seigneur, à ne pas envier les méchants, au contraire, à comprendre qu'ils sont perdus sans toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour cette étude biblique. Nous prions pour les autres leçons, que tu nous aides, Seigneur, à être indulgents avec ceux qui souffrent. Et même quand parfois ils peuvent sortir de leur gond, Seigneur, être compatissants, prier pour eux et les aider avec sagesse à se repentir, Seigneur. Aide-nous vraiment à nous aimer d'un amour sincère et pur et à ne pas nous laisser avoir par l'amitié charnelle. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.